de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le Centre Pompidou, c'est le Centre Pompidou. Et c'est aussi, tout à côté, en sous-sol, l'IRCAM. IRCAM, IRCAM. Ça sonne bien, jugeait Pierre Boulez. IRCAM, pour rappel, Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique. La recherche, tous les compositeurs font de la recherche. Alors, pourquoi inclure les scientifiques dans un monde où la création doit être uniquement fantaisie et ne pas dépendre de considérations scientifiques? Au tout début de l'IRCAM, anecdote lâchée lors d'une visite des lieux, on confondait, paraît-il, son entrée avec une entrée de métro. Mais cela avait déjà changé lorsque Perrine Kervran, le 24 décembre 2010, revenait sur la création de l'IRCAM, un documentaire proposé dans la Fabrique de l'Histoire.
Alors, on va commencer par une séquence très, très courte, d'environ une minute, qui ne fait que dérouler une partition. Alors, une partition a été écrite, dans laquelle on décrit la hauteur des sons choisis, le nombre de générateurs produisant cette hauteur et la durée de chaque note. En fait, lorsque je parle de notes, je devrais parler plutôt de texture ou de région, parce que lorsqu'on a un très grand nombre de générateurs, et c'est là la puissance, la force de la machine, lorsqu'on a un très grand nombre de générateurs de sons, ce n'est pas une note qu'on produit, mais c'est une région de notes, une sorte de bande de fréquences qui donne cette qualité un peu parfois qui ressemble un peu à un effet de cœur.
Pierre Boulez à tout prix.
Je me souviens d'une réunion à Baden-Baden, et le soir, il nous avait raconté comment il avait eu connaissance de ce projet.
Je pense que c'est à la fin de 68, il faudrait vérifier, ou 69.
Et puis un soir, vers 20h, mon domestique vient me voir et me dit « Monsieur, il y a une personne au téléphone qui vous parle. » « Oui, bon, d'accord, qui est-ce ? » Ben, c'est un certain Pompidou. « Écoutez, vous rigolez, vous dites que je ne suis pas là, et puis c'est un plaisantin. »
Il a fallu que ce soit au deuxième appel qu'il comprenne qu'il avait vraiment une invitation.
Le président Pompidou aurait souhaité qu'il revienne en France et lui a proposé un orchestre.
Pompidou, qui est un homme d'art contemporain, de création contemporaine, bon, a lancé le centre qui porte son nom.
Il a dit « Je vous donnerai le meilleur orchestre du monde » et Boulez a dit « Non, le meilleur orchestre du monde ne sera pas français puisque les Français sont trop individualistes et que... »
Boulez est à la fois séduit et en même temps il se demande si c'est pas un traquenard.
Et il a dit donc « Non, je ne m'intéresse pas d'avoir un orchestre, en revanche ça m'intéresse d'avoir un centre de recherche. » Et Georges Pompidou a dit ben, on pourrait incorporer ce centre de recherche à cette institution en projet.
À ce moment-là, il a donc eu la surprise de découvrir que le président Pompidou l'invitait très fortement à apporter, on pourrait dire, sa pierre musicale au centre pluridisciplinaire qu'allait être le centre Beaubourg. Et il a fait la réponse suivante, je pense qu'il a dit « ce que je veux, c'est créer un institut » qui répondent aux besoins de la composition dans les années à venir, c'est-à-dire un institut où les scientifiques et les musiciens puissent travailler ensemble.
Pierre Boulez, à Paris, le 1er janvier 1976. Voilà une nouvelle qui, à elle seule, suffit pour symboliser ce qu'est Beaubourg.
Mais avant de célébrer en grande pompe le retour de Pierre Boulez à Paris, pour l'ouverture du Centre Beaubourg et de l'IRCAM souhaité par Georges Pompidou, revenons sur les épisodes précédents. À ma droite, un musicien, compositeur, chef d'orchestre d'avant-garde, qui installé en Allemagne au cœur de la modernité musicale, veut réinventer la politique de la musique en France et propose une réforme à André Malraux. À ma gauche, un musicien, un compositeur plus classique, plus traditionnaliste, qui lui aussi veut réformer la musique et qui sera nommé à la direction musicale par Malraux en 1966, pour changer les structures de la pratique musicale et son enseignement. Boulez, qui rêvait d'une politique de création, est furieux. Mais au-delà de ce conflit, c'est une illustration du combat sans merci que se livrent depuis des années les musiques dites classiques et contemporaines qui éclatent ici. Michel de Couste, compositeur.
Si je puis dire, la France était presque partagée en deux sur le plan esthétique. Il y avait d'un côté les sériels, les post-sériels, les boulésiens, on va dire, hein, les gens qui se réclamaient aussi de Stockhausen, de Maderna, enfin de toute, de Nono, de toute cette montée de gens fort intéressants. Et puis il y avait de l'autre côté, effectivement, Landowski, qui n'avait pas probablement eu la nécessité de cette révolution qui avait été faite par Schoenberg dans les années 20 et qui était évidemment considéré comme réactionnaire, hein, il faut bien le dire. Et il fallait ou être d'un côté ou être de l'autre.
Dans les années 70, il y avait un grand intérêt pour la musique contemporaine en France, et beaucoup plus que maintenant, on pourrait presque le dire.
Brigitte Margé.
Il y avait en particulier des semaines musicales qui étaient organisées au Théâtre de la Ville par Maurice Fleuret. Donc c'est pas tellement le désintérêt de la France pour la musique contemporaine qui, disons, titillait Pierre Boulez. Je pense que c'est beaucoup plus la vision étriquée qu'avait eu l'administration du ministre Malraux par rapport à la musique qui le gênait.
Il y avait besoin de restructurer indiscutablement la musique entre les conservatoires, les orchestres, la création, les opéras et ainsi de suite. C'est vrai que ça se faisait sentir. Et que Malraux, qui n'était pas spécifiquement musicien, savait probablement pas trop comment faire. Bon, il y avait eu des conseillers, tout ça, enfin, comme d'habitude. Et c'est en 66 que la fameuse déclaration, tout ce qui couvait, a éclaté au moment où, évidemment, Malraux a choisi Landowski pour remettre de l'ordre dans la musique.
Claude Mollard.
Boulez s'était exilé volontaire, hein, pour fuir Malraux et cette politique lamentable. Il avait des mots très durs que Landowski avait développés au ministère de la Culture à l'initiative de Malraux.
Une autre querelle qui s'ouvre et qui n'est pas prête de se refermer, je crois, Claude Rostand. Boulez fait parler de lui sans être à Paris d'ailleurs, mais il envoie des articles.
Il a envoyé un article qui a fait un peu de bruit. Parce qu'il est assez mécontent de ce qui se passe en France.
31 mai 1966.
Pour être bref, je trouve que cet article est très juste et excellent quant au fond. Il est plus regrettable sur certains points de détail quant à la forme. Il est évident que Boulez n'est pas content, non pas seulement du régime qui lui est réservé à lui-même personnellement en France, mais en général à la musique. Il s'en est plaint à plusieurs reprises depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Il a essayé de faire comprendre son point de vue, qui est un point de vue d'administration moderne. Il n'a jamais été écouté. On l'a appelé à plusieurs reprises au ministère. On lui a demandé conseil. Il a donné des idées. Et chaque fois le lendemain, on nommait, soit au conservatoire, soit au ministère lui-même, une personnalité représentative de l'esprit conservateur. Alors il est mécontent, ça se comprend.
Non, mais écoutez, ce qui me dérange, c'est que Boulez, n'est-ce pas, juge dans des termes, enfin ne parlons pas des termes, mais enfin juge la non-valeur, soi-disant, de Landowski à ce poste, simplement parce que Landowski fait une musique qu'il n'aime pas.
On pense souvent que l'IRCAM a inventé la recherche musicale en France, et on a tort. Avant l'IRCAM de Pierre Boulez, il y avait des structures qui développaient la recherche musicale. Entre autres, on peut citer le GRM, créé en 1958 et abrité par l'ORTF, ou officier Pierre Schaeffer, ou les MAMU de Yanis Xenakis, créé en 1966, et qui dépendait du département de mathématiques de l'école pratique des hautes études. Mais ce qui n'existait pas à l'époque, c'était une politique consacrée à cette recherche musicale.
Il existait déjà, effectivement, un centre de recherche musicale, qui s'appelle d'ailleurs le groupe de recherche musicale.
Jean-Claude Risset, compositeur.
Maintenant, on dit de l'INA, mais c'était à l'époque de la RTF ou de l'ORTF. Et c'était donc Pierre Schaeffer qui a inventé, on peut dire, la musique concrète. C'est-à-dire une musique dont le matériau serait tout son enregistré, traité par des techniques de studio de radio. Au même moment, la musique électronique née en Allemagne, à Munich et à Cologne, elle traitait, elle, des sons d'origine purement électrique dans une perspective esthétique complètement différente qui était de réaliser cette musique d'une manière précise que les interprètes avaient du mal à réaliser tellement c'était difficile. Et alors, il y a eu une autre technologie qui est survenue, qui est électronique à proprement parler, mais qui est quand même complètement nouvelle. C'est le numérique. En 1957, Matthews a fait le premier enregistrement numérique, mais aussi la première synthèse. Et moi, j'étais, par exemple, avec Matthews au Bell Laboratory. Ça n'existait pas en Europe. C'est vers les années en 70 qu'il y a eu le premier convertisseur pour faire des sons. Ça, c'était donc avant l'IRCAM. À peu près en même temps, Xenakis a développé dans son centre qui s'appelait à l'époque le CEMAMU, EMAMU même, équipe de mathématiques et d'automatique musicale, un convertisseur qui permettait de synthétiser des sons.
Ce qu'il fallait essayer de faire comprendre, c'est que il pouvait exister une recherche en musique. Parce qu'on pensait toujours que la recherche, c'était la chimie, la biologie, la médecine, j'en passe. Mais l'idée même qu'il peut y avoir une recherche en musique, et que pour que cette recherche existe, il fallait des outils contemporains, nouveaux, ça, c'était quelque chose qui était très difficile à faire comprendre. Tous les compositeurs ont fait de la recherche, quelque part. Quand Beethoven étend le système tonal, quand Roland de Lassus change le contrepoint, c'est aussi il y a des recherches. Mais le fait qu'il y ait des outils spécifiques et que ces outils soient confiés à des compositeurs, à des équipes de recherche, comme à l'instar, si vous voulez, d'un labo. Un labo, c'est pas une personne toute seule qui travaille derrière son éprouvette.
Lorsque j'ai rejoint la première équipe de l'IRCAM en 1973, le cahier des charges était de créer un institut de recherche. Au point où je me demandais si je n'allais pas m'ennuyer un petit peu, puisqu'il y avait très peu de manifestations vis-à-vis de l'extérieur. Mais très vite, la position de Pierre Boulez a changé. Et il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas seulement travailler en interne avec les chercheurs et les musiciens, mais qu'il fallait s'expliquer devant le public, jouer devant le public, intégrer la dimension publique de ce projet. Et donc, c'est en du temps où Michel Guy était ministre de la Culture qu'a été décidée la création de l'ensemble intercontemporain. Donc, c'est une dimension, cette dimension publique, elle a été intégrée, je dirais, deux ans après la création de l'IRCAM.
Et maintenant, Monsieur Boulez, vous avez la parole.
7 mars 1974.
Maintenant, je crois qu'il serait nécessaire de justifier un institut pareil. Le raisonnement nous est présenté très souvent. Pourquoi voulez-vous inclure des scientifiques dans un monde où la création doit être uniquement fantaisie et ne doit aucunement dépendre justement des considérations ou des limites scientifiques? Il est arrivé à un point où dans la musique contemporaine, les considérations de matériaux musicaux sont devenues très importantes. Et je pourrais faire simplement une comparaison en disant que, par exemple, l'architecture a été renouvelée par l'emploi de matériaux nouveaux, comme le béton, comme le métal et le verre. Je crois que pour la musique, il en est de même. Si nous nous dirigeons de plus en plus vers un matériau nouveau, il y aura de moins en moins de divergences entre les idées que le compositeur veut exprimer et la façon de les exprimer.
L'IRCAM se trouve sous la piazza.
Andrew Garzo, assistant musical de Pierre Boulez.
Pour des raisons essentiellement d'isolation acoustique, parce qu'on ne le voit pas sur la maquette, mais l'IRCAM est, si je peux dire, assis sur des ressorts qui absorbent tous les bruits qui viennent de l'extérieur, mais surtout aussi de l'intérieur de Paris, parce que comme chacun sait, Paris, c'est plein de métros qui sont tous créateurs de bruit, et donc ça nous permet de nous isoler également de ce point de vue-là. Donc, si vous voulez, en nous promenant, là, je peux vous expliquer un peu.
Oui, mais l'ascenseur est d'origine.
Non, pas du tout.
Non, on dirait.
Disons, la structure de base que vous voyez là, l'aspect béton, vitre, etc., donc c'est dès l'origine.
Oui, donc là, on est sous la place, on voit le plafond est en fait de dalles de verre, donc on voit le Beaubourg, d'ailleurs, on voit le centre Georges Pompidou, oui. Et le ciel.
Voilà, ça c'était il y avait un escalier, donc ça c'était l'ancien entrée de l'IRCAM. Le pont qui est ici, ça s'est fait plus tard, donc il y avait un escalier qui descendait ici, et donc pour la petite histoire, parfois on nous confondait avec le métro, l'entrée du métro, donc quand les gens venaient, ils demandaient où était la correspondance pour Châtelet. Donc on est dans la chambre anéchoïque, donc c'est un peu impressionnant quand on rentre pour la première fois, parce que tout d'un coup, comme le nom l'indique, tous les échos s'estompent. Ça nous permet de faire la différence entre, par exemple, le son émis par le violon et son interaction avec son environnement.
Alors, il faut décrire un peu, je pense, cette pièce. En fait, on est comme à l'intérieur d'un cube hérissé de pointes de mousse.
Ces objets en mousse, leur seule finalité, c'est d'absorber totalement tout reflet, tout écho dans la chambre.
C'est vrai qu'on se sent seul, en fait. On a l'impression de parler vraiment juste pour soi. C'est assez bizarre.
Voilà. Ah, donc après, il y a des gens, comme le compositeur Cage, quand il est venu ici faire une œuvre, le seul qu'il a fait ici, le Roratorio. Il a bien aimé cette pièce parce que c'était une pièce où il pouvait entendre sans interférence tous les bruits de son corps, tout ça. Il a bien aimé ça. C'est exactement ce qui effraie d'autres personnes. Donc, vous voyez, c'est une question non scientifique.
Très rapidement, le nom est arrivé. Un beau jour, on a eu une discussion, je me souviens, dans nos Algeco. Et Boulez, je me souviens très bien, vient. Alors, on évoque plusieurs titres, centre de musique, de recherche musicale, CRM. Et puis, lui, il voulait quelque chose qui sonne. Alors, il dit IRCAM. IRCAM, parce que IRCAM, ça sonne, vous voyez, IRCAM. Alors, bon, il ne fallait pas discuter, c'était IRCAM.
Pierre Boulez et Yves Galmot ont demandé au président Pompidou, deux ou trois choses qui leur paraissaient essentielles, parmi lesquelles la possibilité de payer à leur juste prix des scientifiques qui viendraient des pays étrangers, de ne pas les faire rentrer dans les grilles de l'administration française. Il y avait également la possibilité d'acheter le matériel scientifique qui conviendrait à l'Institut, et non pas, comme c'était souvent le cas avec les propositions de marché en France, du matériel forcément français. Et aussi la possibilité de gérer le budget de l'IRCAM par l'intermédiaire de celui du Centre Pompidou et non pas en relation directe avec la direction de la musique. Je pense que c'était trois des conditions qui ont été demandées et accordées par l'État français à Pierre Boulez.
Vous vous souvenez également de la façon dont a réagi Marcel Landowski, par exemple, à l'annonce de la création de l'IRCAM ?
Non, je vous avoue que je m'en foutais complètement. Hein. Puisqu'on avait l'accord du président de la République, qu'est-ce que vous voulez que M. Landowski puisse faire ?
Alors ça, bien entendu, c'était une stratégie de Boulez vis-à-vis de la direction de la musique, qui entre-temps avait été placée par Michel Guy entre les mains de Jean Maheu.
Donc j'ai suggéré qu'on prenne un statut d'association et non pas d'établissement public. Et on a fait une association reconnue d'utilité publique par décret en Conseil d'État, ce qui permettait d'avoir des dons des legs, etc. Ce que ne peut pas faire une association ordinaire. Alors moi j'ai eu un entretien particulier avec le directeur du budget, parce que je voulais le rassurer, parce que le ministère des Finances évidemment n'était pas très content qu'on échappe à toute tutelle. Alors on s'est mis d'accord pour qu'on ait non pas un contrôleur des dépenses engagées, mais un contrôleur d'État, qui était quelque chose de plus souple. Et ça s'est très bien passé, d'ailleurs.
Mesdames et messieurs, je vais donner maintenant la parole à M. Pierre Boulez, qui vous présentera les quatre chefs de département de l'IRCAM, ainsi que ceux qui travaillent autour de lui.
Alors, il y avait le département ordinateur, dont le responsable était Jean-Claude Risset. Il y avait le département électroacoustique, si vous voulez, qui était donc sous la responsabilité de Luciano Berio, où il y avait encore les bandes. Vinko Globokar était chargé du département instruments, à la fois de ses prolongements et de l'étude de la physiologie des instruments, et éventuellement inventer des nouveaux instruments. Cosset, par exemple, qui est toujours, a beaucoup travaillé sur, par exemple, une flûte en quart de ton ou en 16e de ton, et ainsi de suite. Et dans le département pédagogie, il y avait un travail interne à faire de compréhension du son, et d'autre part, avec le monde instrumental, de comprendre les systèmes de fonctionnement, soit de la respiration, soit des muscles, si vous voulez, pour avancer en pédagogie.
Mais enfin, j'en arrive à l'essentiel, c'est grâce à Pierre Boulez que l'IRCAM défendra une conception de la musique qui ne cherchera pas à répéter le passé, qui s'efforcera de prendre conscience des transformations incroyables du monde actuel pour les exprimer par ce mode privilégié qu'est la musique. Ce monde, sans cesse en mutation, ces consciences tourmentées qui pourraient l'exprimer mieux que la musique, puisqu'elle ne connaît pas de bornes à l'expression des sentiments ou des passions. Quelle chance plus grande aurions-nous de découvrir cette expression neuve, puisque c'est Pierre Boulez qui la tente, avec tous les moyens d'expérimentation actuellement connus. Je dis tous les moyens d'expérimentation actuellement connus.
Donc, on se rend compte que si on veut que cet institut, ce centre de musique, soit intégré dans Beaubourg, ben, il faut qu'il soit géographiquement à proximité. Il faut ajouter un nouveau projet au projet initial. Alors, les gens des finances nous disent, évidemment, ça commence. Alors, vous l'avez bien dit, ça sera un nouveau scandale de la Villette. Donc, tout le monde se dit, et en plus, Boulez, incontrôlable. À l'époque, le ministre des Finances, c'est Giscard. Je me souviens d'un jour, et plusieurs fois même, Boulez passant à Paris, prenait rendez-vous avec Giscard, allait le voir, et lui disait, voilà, moi, je veux 100 millions pour mon budget, c'est le président de la République qui veut, et si vous ne me les donnez pas, je m'en vais. Bon, donc, il n'y avait pas à discuter. Donc, les gens des Finances, bon, comme ils avaient des instructions de Giscard, qui respectaient l'homme Boulez en tant que pouvoir politique, pouvoir de nuisance, capacité de remuer la presse, etc., était prudent. Et donc, finalement, les gens des finances nous disaient, ben, vous l'intégrez dans l'enveloppe. Ouais, ben, c'est pas facile.
Il y avait une gigantesque polémique sur la nécessité et l'intérêt de l'IRCAM. On peut dire que presque tout le monde, y compris la haute administration française, était contre. Et le projet n'était soutenu que parce qu'il y avait l'appui du président Pompidou et de l'équipe du Centre Beaubourg. Donc, nous nous sentions fragiles.
Et donc, la mort de Pompidou, c'est vraiment le changement. Entre-temps, Giscard est arrivé, qui a horreur de la musique contemporaine, qui a horreur de ce bidule qu'on a construit en plein centre, qu'on va construire, parce qu'à l'époque, on n'a même pas encore installé la charpente métallique. Simplement, heureusement, on a à l'époque suffisamment forcé les feux pour que Giscard n'arrive pas à arrêter le projet, et en particulier grâce à Chirac, puisque Giscard demande un conseil restreint à l'Élysée pour arrêter le projet du centre. Chirac, Premier ministre, s'est opposé au président et a dit ben, « Je démissionne si vous arrêtez ce projet. Par fidélité à Georges Pompidou, je veux qu'on le continue. » Chirac a convoqué à Matignon Michel Guy et Bordaz, parce que Bordaz avait donné sa démission, ne pouvant plus supporter d'être sous la férule permanente de Michel Guy. Et donc, désormais, à partir de cette convocation, Michel Guy a été dessaisi du dossier Pompidou. C'est un conseiller de Chirac à Matignon qui a été chargé du dossier. Et donc, l'établissement public constructeur que nous étions ne rendait plus de compte à l'Élysée, mais à Matignon.
Jean Maheu est nommé directeur de la musique suite au départ de Marcel Landowski en 1975, qui s'était senti désavoué par la création de l'IRCAM.
Michel Guy m'appelle au téléphone, il me dit « Jean, venez me voir ». Et donc je suis allé voir son bureau et quand il ouvrait la porte, il y avait Pierre Boulez qui était là. Et c'était assez drôle parce que Michel me dit « Jean, voilà, c'est formidable, Pierre va revenir en France. Alors, si vous avez un problème dans le domaine de la musique, ou une des questions que vous vous posez, ou des orientations que vous voulez prendre, bah vous téléphonez à Pierre, vous allez le voir et vous verrez ce qu'il faut faire. » Alors, j'ai dit je l'appelais Monsieur le Ministre, alors que je l'appelais Michel. « Monsieur le Ministre, ça n'est pas possible. Je suis nommé en Conseil des ministres, je suis sous vos ordres, je suis aux ordres de personne d'autre. » Et j'ai dit, je m'excuse de devoir dire ça devant Pierre Boulez, que je vois pour la première fois, pour lequel j'ai une immense admiration, mais c'est pas possible. Alors Boulez a été formidable, il a dit, mais je comprends tout à fait Jean Maheu, il n'est pas question de ça. Bien entendu, s'il veut venir me voir, qu'on parle de choses et d'autres, on parlera. Mais je ne demande rien, et je ne souhaite rien.
C'est clair que l'IRCAM, pour Boulez, au fond, ça lui a permis de faire la politique qu'il aurait fait à la direction de la musique 10 ans plus tôt, s'il avait été choisi par Malraux, mais de la faire à l'extérieur, en complicité avec. Puisque finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'IRCAM, un institut de recherche, puis il a créé l'ensemble intercontemporain, Donc il a fait son instrument de diffusion. Donc il s'est taillé son empire, au fond, à la frontière des structures d'État.
Pierre Boulez, 9 mars 1974.
Nous vérifierons, au fond, si les instruments traditionnels ont encore quelque chose à dire. Les instruments épuisés disparaissent progressivement. Mais les instruments qui ne sont pas épuisés, au contraire, les instruments qui ont en face d'eux des possibilités nouvelles, eh bien, ces possibilités sont exploitées. Je ne peux pas vous dire exactement ce que nous allons découvrir. Sans ça, la raison d'être de l'Institut même ne serait pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une grande effervescence actuellement dans les instrumentistes les plus curieux à découvrir ces moyens nouveaux. Les compositeurs désirent très vivement un monde très élargi du point de vue sonore, et c'est exactement ce monde-là que les instrumentistes et les scientifiques, par la même occasion, les techniciens, justement, lui fourniront.
Alors, pour illustrer vos explications, vous avez apporté avec vous des bandes réalisées par ordinateur.
C'est cela.
Jean-Claude Risset, 1977.
Elle porte un titre, non ?
Oui, il y a une première... premier fragment qui s'appelle La Chute, qui est extrait d'une composition plus grande, et c'est cette pièce dont je vous disais qu'elle descend toujours. Alors là, c'est un son donc qui fait un glissando indéfini vers le bas, ce qui est un paradoxe si vous voulez, et ce qui est essentiellement impossible à réaliser sur un instrument ou même d'ailleurs avec les moyens électroniques traditionnels. Et ceci, ça illustre si vous voulez, que la possibilité de contrôle du son avec l'ordinateur peut donner lieu à des possibilités nouvelles.
Les cinq années où j'ai été, oui, disons 75 à 80, c'était un peu rustique, si vous voulez. Hein. On avait les travaux, il fallait faire attention à la poussière, il y avait encore des disques durs qui mesuraient 50 cm. Tout était très précaire. Les approches, si vous voulez, pour faire des sons, étaient excessivement lourdes. Hein. Quand on travaillait là-dessus... on disait qu'on ressemblait un peu à une école des cours pigés, vous voyez, parce qu'il fallait apprendre. Évidemment, on ne savait pas. Moi, j'étais plus à l'aise sur un piano que devant un clavier de machine à écrire. Donc, tout ça était très lourd, mais très passionnant, parce que alors, c'est là que sont arrivées des choses assez exceptionnelles. Bon, il y avait déjà les sons paradoxaux de Jean-Claude Risset et ainsi de suite, mais on est arrivé à la transformation des timbres par succession, si vous voulez. On passait d'un timbre de guitare à un timbre de hautbois, en passant à un timbre de clarinette, en passant à un timbre de trompette, à un timbre de voix. Enfin, alors ça, avec des dégradés, vous voyez, absolument extraordinaires. Ça, c'était des expériences fabuleuses, quoi. J'ai travaillé donc sur l'articulation, parce qu'en pédagogie, on vous fait faire des gammes à longueur de journée, ceci, cela. Et je trouvais qu'il y avait que l'exercice mécanique non ressenti et non contrôlé ne sert à rien. Et donc, on a travaillé sur le tri. Doré, 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 doré. Hein? Lent, moyen, rapide, très rapide. Bon. Fort, piano... en progressant, en allant de piano à triple forte, en allant de triple forte, avec toutes les... Vous savez, dans ce cas-là, il faut croiser tous les paramètres. Et on a travaillé sur le temps, l'endurance au cours de la durée d'un exercice. Et on s'est aperçu, avec des OMG à l'époque, c'était comme ça, d'ailleurs on a mis des électrodes sur les mains, c'est qu'au bout d'un moment, les muscles de la main, finalement, ne travaillaient plus, et que c'était un relais qui était pris au niveau de l'arrière-bras. Donc finalement, ça ne servait à rien que vous fassiez des tris pendant 10 minutes ou un quart d'heure pour dire qu'ils allaient aller mieux. Vous voyez ? Bon, alors c'est une toute petite chose, c'est quelque chose qu'il faudrait... Bon, après, ça s'est arrêté, parce que bon, c'est énormément de travail. Finalement, ça coûte cher. Et puis c'était peut-être aussi des ambitions qui étaient peut-être un petit peu trop grandes. Voilà.
Pierre Boulez, 2005.
Il y avait une espèce de vérité scientifique qu'on appliquait à la musique entre 59-60 et 63. Et cette vérité donc devait répandre ses bienfaits sur la pensée musicale et la justifier en même temps. C'était une façon de se rassurer, tout simplement, et d'essayer d'occuper le terrain justement avec des arguments, entre guillemets, inébranlables. Thank you.
Et vous diriez, Michel Decousse, que ça avait à voir aussi avec ce moment où les sciences humaines voulaient acquérir un statut de science, où le structuralisme se développait. On sait que Pierre Boulez a été assez proche à un moment de Foucault, de Barthes, de Leroy Ladurie, avec le cours qu'il a eu au Collège de France. Vous pensez que c'est aussi, ça fait partie de ce moment-là où les sciences humaines et peut-être même les certaines disciplines artistiques essayent d'avoir ce côté scientifique ?
Absolument, et j'en veux pour preuve le séminaire où on avait participé à Pompidou avec justement Barthes, Foucault, Deleuze, voilà, et où effectivement on s'était rencontrés. C'était avant, c'était au moment où il a été nommé au Collège de France. Et alors là, vous me lancez sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que dans les cours que j'avais imaginés, enfin les séminaires que j'avais imaginés, c'était des cours qui étaient destinés aux compositeurs. Alors donc je m'étais occupé de la linguistique, la compréhension, le cerveau, le fonctionnement du cerveau, des synapses et tout ce qui s'ensuit, la mémoire. La possibilité de la mémoire, et également qu'est-ce qui se passe avec la psychologie, si vous voulez. Alors, il y avait non seulement Freud derrière, mais il y avait toute l'antipsychiatrie, avec Lange, tous ces gens-là, tous les Américains qui ont déferlé après 68, et j'ai quasiment lu tous ces livres, enfin, je veux dire, et on était la pédagogie était très influencée par ça, ce qui explique la création de Pantin avant, si vous voulez, l'IRCAM.
Alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que à l'origine de l'IRCAM, même si aujourd'hui ça nous paraît absolument incroyable, le côté informatique était cantonné à un seul département. Et dans l'espace de 2 années, à peine, l'informatique a tout envahi. Autre grande différence, c'est qu'à l'origine, il y avait une grande machine centrale sur laquelle tout le monde faisait sa cuisine, si je puis dire. Et donc on entendait dans les bureaux, parce qu'il y avait des haut-parleurs qui étaient connectés à cette machine centrale, donc on entendait le résultat des travaux de tous les gens qui travaillent sur la machine.
Ah, c'est incroyable.
Oui, donc on entendait, bah tiens, un tel, il est en train de travailler sur telle chose, il a avancé, là, effectivement ça sonne un petit peu mieux, etc.
C'est vrai qu'à l'époque où l'IRCAM est arrivé, il fallait 3 heures, et comme disait Pierre à ce moment-là, souvent, il disait, vous faites 3 heures, vous programmez, parce qu'il n'y avait pas les programmes d'aujourd'hui, enfin bon, vous voyez, c'était vraiment machine à écrire, et vous appuyez sur le bouton, et ça fait pioup. Voilà, alors c'est quand même pas très satisfaisant. Et c'est vrai que Pierre avait envie d'entendre du son, de rentrer dans le son, si vous voulez. Et en 75, nous sommes tous partis à San Francisco, faire un peu nos classes sur, sur ce qui se passait là-bas, de voir de très près. On est allé à Bell, on est allé, enfin, ainsi de suite. On est allé aux États-Unis et on a été reçus merveilleusement et on a travaillé sur les ordinateurs, parce que le PDP-10 n'était pas encore arrivé en France. Il y avait rien, si vous voulez. Donc tout ça, c'était un peu loin pour nous. Hein. Donc il fallait qu'on touche vraiment du doigt les choses, et on est en rentrant en 75. Après, le PDP-10 a dû arriver en 76, et moi j'ai ouvert les premières sessions pédagogiques en 78.
Et est-ce que vous pourriez nous décrire un peu l'atmosphère qui régnait à l'IRCAM, dans ces débuts de l'IRCAM que vous avez connus?
Ah ben c'était une ambiance assez festive, enfin festive, joyeuse, je veux dire, c'était des jeunes gens, hein. Il y avait des tas de gens qui venaient des États-Unis, du MIT ou d'ailleurs, il y avait des gens, des Français aussi, mais c'était tous des jeunes en fait, et évidemment c'était assez spécial parce que toute la nuit pratiquement il y avait des gars qui travaillaient à l'IRCAM, alors... Parfois, bon, ils dépassaient un peu les bornes, il fallait mettre un frein. Certains avaient des idées un peu fofolles. Vous les remettez de l'ordre très facilement là-dedans. C'était lui le patron, on n'avait pas discuté. On a eu un petit épisode qui était assez drôle, c'est qu'on a eu un stagiaire russe qui venait à l'époque de la Russie stalinienne. Hein, c'était encore les soviets. Et donc il a été là, et alors on le voyait, il passait sa vie à la photocopie pour faire le plus de photocopies possible, probablement pour envoyer en Suisse, en Russie, alors on l'appelait photocopieur.
Au début, on a craint, en tout cas tous ces groupes différents,
Jean-Claude Risset.
Que ce soit le groupe de recherche musicale, le groupe de la radio ou des initiatives comme l'itinéraire qui commençait à apparaître à l'époque, ou de The 2M, enfin qui étaient des centres de musique contemporaine mais qui n'adhéraient pas forcément à cette ligne-là, on craint que les moyens soient complètement taris au bénéfice de l'IRCAM.
Pour éviter à la fois quelques injustices et aussi quelques récriminations excessives...
Jean Maheu, directeur de la musique.
J'ai réussi à dégager des fonds, évidemment beaucoup moins importants, pour le CEMAMU de Yanis Xenakis. Alors évidemment, il y avait des gens qui râlaient à Bourges, le GMB, je crois que ça s'appelait, de Bourges, avec quelques musiciens honorables et jeunes en tout cas. Et là, j'ai donné un peu d'argent aussi. Enfin, j'ai donné, l'État a donné à mon initiative de l'argent. Mais évidemment, rien de comparable avec l'IRCAM.
Il y a eu une réunion, un colloque à Angers qui réunissait à la fois les gens de l'IRCAM et puis les gens du GRM, les gens du CEMAMU, puis des gens, donc vous, de la direction de la musique, pour discuter un peu de cette mise en place d'une politique liée à la recherche musicale.
Cette réunion avait surtout un but diplomatique et psychologique, essayer de décrisper. Mais il était bien évident que l'IRCAM allait avoir, avait virtuellement, sa propre politique, ses propres orientations. Je ne croyais pas déjà à l'époque à la possibilité d'une orientation dictée de l'extérieur.
Pour l'inauguration de l'IRCAM, Pierre Boulez et son équipe avaient conçu un grand festival d'un an qui s'appelait Passage du XXe siècle. Et le concert d'inauguration du bâtiment d'IRCAM proprement dit s'est passé quelques mois après l'inauguration du centre, avec des œuvres de Karlheinz Stockhausen, York Lehr, Jonathan Harvey. C'était un concert intéressant, mais qui ne prouvait pas totalement la nécessité de l'IRCAM.
Alors, c'est passé quelque chose de difficile à expliciter. On a ressenti un agacement de Pierre. Pierre était pressé qu'il y ait des œuvres qui sortent. Et nous, on disait, attendez, on cherche, on avance. Mais Pierre était pressé qu'il y ait des choses parce que Pierre n'est pas un chercheur.
Michel Decousse.
Il faut quand même le dire. C'est quelqu'un qui est fasciné par la recherche, mais on sentait qu'il était pressé qu'il y ait des choses audibles, que l'on puisse exploiter. Et évidemment, quand vous dites au grand public, et c'est pas méprisant ce que je veux dire, mais quand vous lui faites entendre la transformation d'un hautbois en guitare et en piano, et ça ne parle pas beaucoup.
On peut pas être à la fois un laboratoire du CNRS et le Palais de la Découverte. Le Palais de la Découverte, c'est un métier à plein temps. C'est de montrer et de démontrer au plus grand nombre les résultats, des processus scientifiques, etc. C'est très, très délicat parce qu'on a vraiment cette... Gérald Bennett, Michel Decousse et moi, par exemple, on a eu vraiment un espoir qu'il y ait quelque chose comme le Bauhaus, par exemple. Enfin, que le Bauhaus n'a peut-être pas produit de très grands artistes, mais il a plus ou moins produit l'esthétique industrielle, quoi. Je veux dire, il y a eu un changement. Et là, il n'y a pas eu vraiment ça.
Et c'est vrai que l'équipe n'allait plus tout à fait dans le même sens que ce que voulait Pierre. Ce que l'on dit aujourd'hui, et où j'en profite pour le dire, où toute la première équipe a été balayée, on n'en parle plus. Hein, les gens qui ont été là entre 74 et 73, puisque même Jean-Claude est arrivé en 73, c'est un peu fort, ça. Je veux dire, c'est un peu désagréable, je le dis très franchement. Parce que, même si on n'a pas fait des choses comme on voulait qu'elles soient faites, on a énormément travaillé. Hein. Donc, je me souviens, je suis allé trouver Pierre Boulez et je lui ai dit, écoutez, je m'en vais. Il m'a dit, Michel, vous avez tort, parce que le département pédagogique va être la chose la plus importante. Et je dois dire que c'est vrai que c'est devenu quelque chose d'excessivement important. Je lui ai dit, oui, mais on me propose de m'occuper de la recherche au ministère de la Culture, enfin, à la direction de la musique, Et je pense que je peux faire quelque chose maintenant avec ce que j'ai appris ici pour tous les centres qui existent. Alors les centres qui existaient à l'époque, c'était la CROE, c'était le GMVL, c'était le GRAM, c'était Xenakis qui était en dehors de l'IRCAM. Il y avait des choses à Albi qui se passaient, il y avait des choses à Lyon, à Grenoble, dans plein de villes. Et je pense, je le dis, ça peut paraître peut-être un peu prétentieux, mais je pense qu'il y avait personne dans le corps de l'inspection, si vous voulez, qui était suffisamment suffisamment au fait de ces questions pour s'occuper de ces choses-là. Et donc, j'ai accepté, si vous voulez. Et je crois pouvoir dire que j'ai bien fait, parce que j'ai pu m'occuper de ces structures pendant 8 ans et vraiment les défendre pour que ces groupes existent en dehors de l'IRCAM, parce qu'il n'y avait pas non plus de raison qu'il n'y ait que l'IRCAM.
Pierre Boulez répond. Deux pianos et synthétiseurs, harpe, cymbalum, deux percussions solistes. Ensemble et ordinateur 4X temps réel. Œuvre créée en 1981.
On pourrait dire que la vraie inauguration de l'IRCAM, ça a été la création de Répond. Le fait que Luciano Berio ait invité à l'IRCAM un scientifique italien qui s'appelait Peppino Di Giugno et qui a, on pourrait presque dire bricolé, enfin, au sens génial du terme, une version d'un ordinateur capable de transformer le son de l'instrument et de le multiplier, d'en développer les harmoniques, les arpèges, etc. Ce travail de Peppino Di Giugno, branché sur les connaissances qu'avaient apportées les Américains à l'IRCAM, a permis de créer une machine, la 4X, qui a donné au compositeur enfin la possibilité de s'exprimer avec ses moyens de l'informatique, mais à des fins musicales.
La 4X, c'était un peu la pomme de discorde à l'intérieur de l'IRCAM. Il y avait deux courants. Il y avait les gens qui étaient pour le temps différé et les gens qui étaient pour le temps réel. Donc le temps réel, c'était agir sur le son en direct, agir sur une transformation d'un son qui pouvait être envoyé par un instrument, mais en temps réel. C'est vrai qu'il y a eu une bataille interne et où on a senti que tous les moyens dont on disposait à l'intérieur de l'IRCAM s'en allait sur la 4X. Et il y a eu, avant la 4X, il y a eu la 4A, la 4B, la 4C, la 4D, enfin bon, ainsi de suite, où ça ne marchait jamais, il y avait toujours un câble qui... Enfin bon, parce qu'on travaillait au milieu des câbles avec quand même les prises crocodiles, hein, il faut quand même savoir ça. C'est comme ça que ça se passait, hein. Alors une prise crocodile qui s'en allait, plus rien ne marchait. Hein. Et c'est cette notion de temps réel et de temps différé qui a créé effectivement une tension à l'intérieur de l'IRCAM. Pierre était beaucoup plus pour le temps réel. Donc, il a fait Répond, effectivement, et la 4X était prête à ce moment-là, et ça a été les premières démonstrations publiques de la 4X. Sur le plan, je dirais, politique musicale reconnaissance, c'est sûr que le fait que cette œuvre existe, aille dans le monde entier, que l'IRCAM soit capable de se déplacer à Avignon ou à je sais pas où, ou dans un conservatoire ou dans une salle de concert et de montrer que cette chose existe et qu'elle fonctionne, c'est sûr que ça a été une consécration et une reconnaissance. Ça, c'est absolument évident.
Est-ce que Andrew Guerzo, si on revient justement sur cette période de 79 où il y a eu des conflits effectivement sur la question du résultat, de ce qu'il fallait produire à l'IRCAM, est-ce que vous avez l'impression finalement l'IRCAM et peut-être Pierre Boulez à travers l'IRCAM avait des comptes à rendre?
Il y a une attente, mais c'est évidemment s'il y avait une attente, mais c'est tout à fait normal. Comment dire, on ne peut pas supposer que l'État ou une société va en quelque sorte contribuer à une institution comme l'IRCAM et après ne pas se poser la question, mais qu'est-ce qui est sorti de tout ça? Tout le monde était très conscient que quand on travaillait dans le domaine de la synthèse, il fallait qu'il y ait quelque chose qui sorte de ça, quelque chose d'original, quelque chose de véritablement nouveau. Quand on est parti, par exemple, à Donaueschingen faire la création de réponses, je peux vous dire que la pression était palpable. C'était la première fois que Pierre Boulez faisait une œuvre à l'IRCAM, donc ça, c'était important. C'était la première fois qu'on sortait véritablement à l'extérieur. Je vous ai raconté des machines, qu'on voyageait avec des machines qui n'étaient pas du tout conçues pour voyager. Donc il y avait un petit stress de ce point de vue-là. Et après, on avait, comment dire, l'excitation, le stress de quelqu'un qui voulait simplement réussir le projet. Donc évidemment, ça existait, tout ça, bien sûr.
Vous vous souvenez un peu de l'histoire, de la mise en place de justement de cette machine, de comment, voilà, j'imagine que ça a été beaucoup de bricolage aussi.
Mais je me souviens très très bien, ça se passait dans Studio 3, et chaque jour c'était l'aventure, parce que au même moment qu'on travaillait avec Pierre Boulez pour faire des esquisses, l'ingénieur Giuseppe Di Giugno était en train de revoir sa machine, donc on n'était jamais sûr qu'on en revenait le lendemain matin, qu'il n'avait pas revu quelque chose dans la machine pendant la nuit qui faisait que ça ne fonctionnait plus le lendemain matin.
Donaueschingen, dont vous rentrez justement, Maurice Fleuret et Philippe Olivier. Alors Maurice Fleuret, cette création de Pierre Boulez est-elle importante?
Très importante, elle était très attendue depuis très longtemps. Pierre Boulez y travaille depuis 5 ans, il y pense depuis plus de 23 ans. Et c'est avec une certaine angoisse que tout le monde musical européen s'était rendu hier après-midi dans le palais des sports de la petite ville de Forêt-Noire, au fond du parc des Fürstenberg, où pour une fois se jouait un match insolite. Le match de Pierre Boulez tout seul, face à la technologie la plus sophistiquée de l'IRCAM et d'ailleurs, face aussi à la gageure presque insoutenable, intenable, de créer une œuvre à partir d'une fusion entre le jeu vivant et tous les procédés électroacoustiques actuels.
Qu'avait-il à prouver cette fois-ci à Donaueschingen?
Tout. C'est-à-dire le bien fondé de sa démarche actuelle, dont vous savez qu'elle est dominée par la recherche scientifique, l'évolution de sa propre personnalité, sa maturité, puisqu'il a 56 ans, il avait à donner vraiment la preuve de l'existence d'un nouveau Boulez, d'un Boulez rayonnant, calme, sûr de lui et maîtrisant ses instruments.
Parce que depuis quelques années, il était de bon ton de dire « Boulez, c'est avant tout un excellent chef d'orchestre ».
Un excellent chef d'orchestre et un chercheur égaré. Eh bien, je peux vous dire qu'il reste un excellent chef d'orchestre puisqu'il conduisait son œuvre.
C'est une œuvre relativement courte, elle dure 20 minutes seulement.
Elle a été rejouée après avoir été interrompue au tout début par un bruit très sec. C'était le transformateur voisin qui venait de recevoir la foudre. Il a fallu attendre quelques 15 minutes d'angoisse supplémentaire. Les 24 instruments au centre de la salle, sur un ring de boxe, sur un podium, vont dialoguer avec les 6 solistes répartis autour du public contre les murs et ont chacun un instrument complémentaire, un magnétophone et 2 haut-parleurs. Eh bien, cet ensemble au centre nous montre une orchestration que l'on ne croyait pas possible. On se demande comment, avec des cordes, avec des bois et des cuivres, on peut arriver à des alliages aussi subtils, aussi nouveaux. Et on peut dire que pour une fois, les moyens technologiques ont aidé à approfondir le donné de l'héritage.
C'est pendant cette période qu'on est passé, si vous voulez, une politique musicale, certes de qualité vis-à-vis des orchestres, etc., mais hexagonale, sans horizon, sans invention pour l'avenir, si ce n'est faire 14 orchestres au lieu de 8, etc., ou 8 au lieu de 4, etc. On est passé à un espace musical où l'invention, la création, l'innovation, l'internationalisation ont pris le pas. On a déprovincialisé le domaine musical.
À votre avis, pourquoi est-ce que, justement, Georges Pompidou a eu envie d'appeler Boulez, de confier quelque chose à Boulez à ce moment-là?
Parce que Pompidou avait été choqué de la manière dont Boulez avait été
Claude Mollard.
Traité par Malraux. À l'époque, il était Premier ministre, mais Malraux était ministre d'État, intouchable, capricieux par certains côtés, et donc il n'était pas intervenu. Mais entre Landowski et Boulez, son opinion était faite. Il était l'homme de la modernité. Donc il voulait réparer en quelque sorte l'injure faite à Boulez. C'était une sorte de geste de cette sorte. En tout cas, c'était cohérent avec sa vision. Et donc il a dit à Bordas, débrouillez-vous pour le faire rentrer dans le centre Pompidou. Je ne vais pas le mettre ailleurs. On va faire un grand ensemble qui sera pluridisciplinaire et donc ça aura vraiment du sens. Alors c'est comme ça que le sous-marin a été accolé au vaisseau amiral.
Si ce concert ne correspond pas à vos goûts, écoutez alors jeudi à 20h50 sur Intervariété, une amusante comédie de la biche sur l'égoïsme, moi, interprétée par la Comédie Française. Et nous vous donnerons chaque jour des détails plus complets dans notre sélection.
Merci à Michel Decouste, Yves Galmot, Andrew Guerzo, Jean Maheu, Brigitte Marger, Claude Mollard et Jean-Claude Risset. Archivina Aurélie Marcet, mixage Véronique Amiot, Pierre Boulez à tout prix, Perrine Kervran, Anne Fleury.
Ce documentaire a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 24 décembre 2010 dans la Fabrique de l'Histoire. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.